Alors, petite question intéressante, qui est difficile, mais qui est intéressante. Pourquoi pas de théologie scientifique si l'intelligence ne peut pas prouver l'existence de Dieu? C'est vrai, c'est très vrai qu'elle s'oppose, puisque je vous ai dit que, de fait, saint Thomas aborde le problème de l'existence de Dieu pour montrer comment l'intelligence est capable d'atteindre l'exister de Dieu. C'est comme ça que ça se pose, hein, au point de vue philosophique, au point de vue théologique. L'intelligence, l'exister de Dieu. Le fond, c'est la relation qui existe entre les deux. Est-ce que l'exister de Dieu est évident? Vous voyez bien que c'est un problème critique. Ce n'est pas du tout un problème de découverte au plan métaphysique. Existe-t-il un être plus grand que la personne humaine? Existe-t-il une réalité autre que la personne humaine? Voilà comment on poserait la question au plan métaphysique. Tandis qu'ici, je sais par la foi que Dieu existe, je sais par la foi que je suis intelligent. Par la foi, vous savez que vous avez l'intelligence en vous. Ça fait partie de votre foi, puisque vous êtes créé à l'image de Dieu. Donc, vous avez les deux. La foi nous permet de dire que nous avons que l'exister de Dieu, c'est une réalité, et que mon intelligence est une autre réalité. Et je me pose la question, quelle est la relation qui existe entre les deux? Je me pose cette question dans la raison. C'est vraiment un problème critique, de théologie critique. Est-ce que l'exister de Dieu est pour moi évidente? Saint Thomas répond, l'exister de Dieu est évidente par soi, mais pas pour nous. N'est-ce pas? Premier article. Article premier. Puis, on montre, puisque l'exister de Dieu n'est pas évidente pour moi, est-ce que l'exister de Dieu peut être prouvé, est-elle démontrable? On comprend très bien. Il y a deux manières, hein, de se présenter à l'intelligence. On se présente à l'intelligence immédiatement comme quelque chose qui est évident. On se présente à l'intelligence comme quelque chose qu'on atteint immédiatement. Ce qui est évident est immédiat. Ce qui est démontrable est médiat. On vient vous montrer l'organisation de cette question. Hein. Donc ça, c'est l'article 2. Est-ce que l'existence de Dieu est média? On dit oui, mais non pas propter qui, non pas par une démonstration proprement dite, par une démonstration proprement scientifique, mais par une démonstration quia. Donc il faut bien savoir la distinction entre la démonstration propter qui et la démonstration quia. Je vous ai dit ça, c'est à savoir. Alors je pourrais interroger tout ça. Juste avant le carême, pour l'interroger, pour voir si vous savez bien la différence entre la démonstration. Je ferai ça de temps en temps, hein, pour vous mettre un peu d'inquiétude dans l'atmosphère. La démonstration propter quid, c'est une démonstration qui se fait par les principes, et la démonstration quia, c'est celle qui se fait par les effets. On dit pas de démonstration par les principes, donc démonstration par les effets. Et article 3, ce que nous allons voir, démonstration par les effets. Ça, je crois que tout le monde doit le comprendre. Hein. C'est facile. C'est de comprendre la position de l'article 3 dans cette question 2. Alors, j'interprétais cette question 2 de saint Thomas en disant que cette question 2, c'est saint Thomas qui exerce le pouvoir de l'intelligence pour pouvoir l'utiliser vraiment en théologie scientifique. Si l'intelligence humaine ne peut pas atteindre par elle-même l'existence de Dieu que d'une manière métaphorique, que d'une manière donc non propre, ce que disent les modernistes, ce que disent 95% des théologiens d'aujourd'hui au dire d'un éminent théologien de Rome. Donc, ce que la plupart aujourd'hui disent, non, l'intelligence humaine ne peut pas atteindre par elle-même l'existence de Dieu, selon une démonstration fuyante. C'est-à-dire par les effets, en se servant du principe de cause à effet. L'intelligence ne peut pas. Alors, à ce moment-là, plus de théologie scientifique. Et on comprend très bien pourquoi, aujourd'hui, on ne regarde plus saint Thomas. En disant saint Thomas, c'était très bien pour le Moyen-Âge, mais pour notre monde d'aujourd'hui, impossible. Parce que si l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu, vous comprenez très bien que le propre de la théologie, c'est d'utiliser l'intelligence humaine. C'est d'utiliser un logos philosophique. Si le logos philosophique, si le discours philosophique ne peut pas atteindre proprement l'existence de Dieu, il ne peut donc être que métaphorique. Et donc, je ne peux plus avoir de théologie scientifique. Je ne peux plus faire la distinction entre les analogies propres et les analogies métaphoriques. Parce que, du fait même que l'intelligence est capable d'atteindre l'existence de Dieu, il faut donc que l'intelligence analogiquement puisse atteindre proprement Dieu, proprement l'exister de Dieu. Et donc je peux à partir de là distinguer les raisons analogiques propres et les raisons analogiques métaphoriques. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, la différence entre les raisons propres analogiques et les raisons analogiques métaphoriques, c'est quand même très important, nous le verrons progressivement. Au moins retenez cela. Et puis posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire, hein, drôle de bête. Alors je donne toujours l'exemple, quand on dit « le Christ est le lion de Juda », analogie métaphorique. Le Christ et la sagesse, analogie propre. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Quand je dis le Christ est tête de l'Église, est-ce que c'est métaphorique, est-ce que c'est propre? Beaucoup plus difficile à répondre. Quand je dis le Christ est pain de vie, est-ce que c'est métaphorique, est-ce que c'est propre? Beaucoup plus difficile à répondre. Si je réponds pas, vous voyez. Et je vous laisse la question, vous posez la question au moins. Parce que si vous ne vous posez pas la question, vous n'arriverez pas à comprendre. Quand je dis que le Christ est lumière du monde, est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est une analogie propre? Très difficile. Très difficile. Les doctes en discutent. Donc, il faut discuter. C'est pour que vous compreniez, quand il s'agit de quelque chose de métaphorique, il y a un lien avec le sensible. Quand il s'agit de quelque chose, d'une analogie propre, alors c'est une raison tout à fait pure, c'est-à-dire quelque chose qui signifie une perfection qui n'est pas liée au sensible. Par exemple, la sagesse. La sagesse n'est pas liée au sensible. Et donc, quand je parle que le Christ est sagesse, ce n'est pas lié au sensible. La lumière est-elle liée au sensible? La lumière, normalement, est liée au sensible. Mais vous voyez, par le point de vue de l'effet de la lumière, je remonte vers quelque chose de plus en disant l'intelligence est comme la lumière, os phos, comme on dit en grec, pour qu'on comprenne mieux. N'est-ce pas? Os phos, c'est comme la lumière. Eh bien, quand je dis ça, je vois que je suis en face de quelque chose de métaphorique. Parce que je dis os, chaque fois qu'Aristote dit comme ça, c'est comme, vous traduisez ça comme. Et quand vous dites comme, ordinairement c'est ad instar de la lumière. Donc quand vous dites ad instar, c'est métaphorique. Hein? C'est comme. Alors vous voyez pourquoi cette découverte de l'exister de Dieu est quelque chose de très important. Puisque ça me permet de comprendre que mon intelligence humaine peut être utilisée scientifiquement, c'est-à-dire analogiquement, mais selon une analogie propre, et non pas seulement métaphoriquement.
On verra ça progressivement. Bon, je n'insiste pas plus. Pourriez-vous nous expliquer de nouveau pourquoi Aristote affirme que l'essence est antérieure à l'exister ? Ah, ça, c'est plutôt autre chose. Hein. C'est plutôt le cours de théologie première. Hein. Donc ça, c'est théologie première, plutôt que... Je sais qu'on peut le mettre ici, mais c'est plutôt théologie première. Alors, nous allons tout de suite, si vous voulez, entrer maintenant dans l'analyse des cinq voies. Alors, petite remarque, hein, donc, après avoir montré comment dans l'article premier, est-ce que l'existé de Dieu est évident pour l'intelligence humaine ? Est-ce que l'existé de Dieu est démontrable ? Article 3, comment l'existé de Dieu peut être atteint par l'intelligence humaine. Alors, comprenons bien que saint Thomas met ces cinq voies dans le même article. Or, si saint Thomas met ces cinq voies dans le même article, ça prouve que pour saint Thomas, je ne peux pas séparer les cinq voies. Ce qu'on a beaucoup trop fait en philosophie et en commentaire de saint Thomas. Je crois que nous sommes ici en présence d'une démonstration quia, donc a posteriori, une démonstration à partir des effets, d'une démonstration quia, analogique et synthétique. Et je dis bien analogique et synthétique, donc il faut que chacun de ces termes vous dise quelque chose, hein. Exactement comme Aristote dira, et ce que nous le verrons, une induction analogique synthétique. Alors il faut comprendre que c'est une démonstration à partir des effets. Ça c'est facile à comprendre. On remonte des effets à leur source. C'est une démonstration analogique parce que c'est bien évident qu'on ne peut parler de Dieu que d'une manière analogique. Je n'ai pas une vision directe de Dieu. Donc je ne peux parler de Dieu que d'une façon analogique. Quand je dis analogique, je veux dire d'une façon indirecte. Pas directe, je n'ai pas une vision directe sur Dieu. Et quand je dis synthétique, c'est qu'il faut prendre les cinq voies pour pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est les cinq voies qui ensemble, comprenons bien, les cinq voies qui ensemble se lient et donnent toute la force de l'argumentation. Mais chaque voie à sa portée. C'est évident. Parce que si aucune des voies n'était démonstrative, vous comprenez bien, ce n'est pas en accumulant les aveugles qu'on voit clair. Donc ce n'est pas en accumulant les cinq voies qui ne sont non démonstratives qu'on verra dire que les cinq sont démonstratives. Non, c'est analogique. Donc chacune est démonstrative. Mais chacune est démonstrative liée à une autre. Je ne peux pas les séparer. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est pour ça que c'est si difficile, du reste même à exposer. Alors, remarquons donc que ces cinq voies font appel de fait. Elles sont exposées, toutes les cinq, dans le même article. C'est pour nous faire comprendre que, tout en étant bien distinctes, elles sont cependant inséparables et elles s'appellent l'une l'autre. Nous allons comprendre que ces cinq voies, toutes, ont une structure semblable. Alors, toutes vont avoir cette structure. Je donne la structure pour que vous compreniez mieux l'ensemble. Et puis après, on verra chacune en particulier. Toutes vont partir d'un point de départ, l'expérience. J'aurai donc cinq expériences au point de départ. Une expérience que nous pouvons tous constater. Toutes vont se servir du principe de causalité. Alors il faudra savoir quel principe de causalité. Et c'est là où parmi les thomistes, il y a une très grande diversité. Et plus exactement, ils sont tous d'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Alors, je le dis loyalement. Pour tous les thomistes, à partir de Hoccart,
Ce principe de causalité, c'est le principe de causalité éthicien. Jusqu'au père Garrigou inclus. C'est le principe de causalité éthicien. À côté de ce principe de causalité éthicien, on va mettre le principe de non-régressus à l'infini. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Je dis que nous sommes là en présence d'un corollaire du principe de causalité. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Donc ça, c'est un corollaire. Donc nous avons donc premièrement l'expérience, deuxièmement le principe, troisièmement le non-régressus, quatrièmement la première conclusion, cinquièmement la seconde conclusion. Il y a deux conclusions. Vous avez donc un raisonnement qui a cinq niveaux. De temps en temps, le non-régressus à l'infini est supprimé. Vous avez donc quatre niveaux. Mais les trois premières voies expliquent le non-régressus à l'infini. La voie 4 et 5 ne le donnent pas. Vous voyez, je vous donne le petit schème hein, pour que vous puissiez lire ça avec intelligence. Et puis, conclusion première, il est nécessaire qu'il existe un être nécessaire, un être absolu. Et puis la conclusion, ce que tous nomment, disent Dieu. Très important de voir que la conclusion a deux étages. Donc, je m'explique bien, comprenez bien ça. Ça, il faut comprendre ce petit schéma avec beaucoup de netteté. Et il faut voir comment il va se répéter après. Ça, c'est le petit schéma de structure, tout simplement, au point de vue critique. Vous partez de l'expérience. Si vous partez de l'expérience, vous comprenez bien que le jugement d'existence est présent. Vous partez de l'expérience au sens fort. Vous ne partez pas d'une idée. Vous partez de l'expérience. Nous constatons qu'il existe des réalités mues. Le point de départ de la première voie. Nous constatons qu'il existe des réalités mues. Deuxièmement, on se sert du principe de causalité efficient. Du principe de causalité. Les thomistes disent efficient. Je dis final. Il faudra comprendre. Hein. C'est pas parce que je dis ça que vous devez le dire. Hein. Vous devez le comprendre. Mais c'est très important. Il faudra essayer de saisir pourquoi. Le non-régressus à l'infini, qui existe dans les trois premières voies, la première conclusion, il est nécessaire que, la seconde conclusion, ce que tous disent Dieu. Alors, c'est important de bien saisir ça. Cinq moments, sauf dans la dernière, ou dans la dernière, d'une certaine manière, on aboutit presque tout de suite à Dieu, donc il y a aussi le non-régressus, le nom de ce que tous disent Dieu, et puis le principe de causalité et final et l'expérience. Voilà le petit schème. Prenez au moins le schème complet ici, les cinq moments. Alors, je réfléchis sur ce schème. Je pars des effets existants. Mais vous comprenez très bien, je ne peux pas dire d'avance qu'en vous voyant, vous êtes une très belle créature de Dieu. Oh, quelle belle créature de Dieu. Si je dis ça, ça prouve que je vous regarde dans la lumière du Créateur. Tandis que je vous regarde au point de vue philosophique comme une réalité existante. Donc nous partons d'une réalité existante. L'existence est en acte dans cette démonstration d'une réalité existante, d'un existé. Puis, nous nous servons du principe de causalité. Ce principe de causalité me permet de remonter de l'effet à quelque chose qui est antérieur à l'effet.
puisque la cause, par définition, est antérieure à son effet. Et un lien de nécessité, puisqu'il s'agit d'un principe. Tout principe nous donne un lien de nécessité. Le non-régressus à l'infini, j'écarte l'objection. Le non-régressus à l'infini, c'est écarter l'objection. Rien de positif, c'est négatif, non-régressus à l'infini. On ne peut pas remonter à l'infini dans des causes. Donc on écarte. Je conclus, il est nécessaire. Vous voyez que j'aboutis à une nécessité. Et j'aboutis à une nécessité dans l'ordre de l'exister. Et c'est ça toute la difficulté. C'est ça que Kant ne peut pas supporter. Alors il faut bien saisir ça. Il faut bien saisir que je pars de l'exister, je me sers d'un principe, je suis dans l'ordre de la nécessité, et un principe de causalité me permet de maintenir une nécessité dans l'ordre de l'exister, et j'aboutis à l'existence d'un être premier. Alors, je crois que c'est assez simple de voir qu'il y a l'exister et la nécessité. Or, je n'ai aucune expérience d'une nécessité dans l'ordre de l'exister. C'est pour cela que je suis obligé de lier l'exister à un principe qui me donne le sens de la nécessité. Parce que si mon intelligence peut démontrer que Dieu existe, il faut que mon intelligence soit capable, dans l'ordre de l'exister, d'atteindre du nécessaire. Si mon intelligence reste dans l'ordre de l'exister, uniquement dans la contingence, je ne peux jamais atteindre l'existence de Dieu. C'est ce que dira Kant. Ça, c'est la grosse obstacle de Kant. Nous verrons ensuite la grosse artillerie kantienne. C'est l'artillerie formidable. Alors, il faut bien voir que Kant ne peut pas dire l'intelligence humaine ne peut pas atteindre quelque chose de nécessaire dans l'ordre de l'exister. Et il a raison au niveau de l'expérience. Vous n'avez jamais expérimenté quelque chose de nécessaire. Vous n'avez expérimenté que du contingent. Ça, c'est bien évident. Vous n'avez expérimenté que du contingent. Et vous ne saisissez le nécessaire qu'au niveau de l'universel, ou au niveau des principes. Si donc l'intelligence humaine peut arriver à poser un exister au-delà de toute contingence, il faut que l'intelligence humaine soit capable de lier l'exister au nécessaire. Ça me semble très évident, hein. J'espère que vous comprenez ça. Oui. Nous avons en nous, si vous voulez, l'expérience des réalités contingentes. Nous avons en nous l'expérience du nécessaire. Le nécessaire est du côté des essences et le contingent est du côté de l'existence. C'est bien évident. Il faut pouvoir lier les deux pour pouvoir dire il existe nécessairement un être premier. Il faut donc atteindre, dans l'ordre de l'exister, du nécessaire. Comment atteindre, dans l'ordre de l'exister, du nécessaire? Ça ne peut se faire que par l'utilisation d'un principe et du principe de causalité. Mais du principe de causalité saisi tel qu'Aristote le saisit, et non pas tel que Kant le saisit. Parce que le principe de causalité tel que Kant le saisit reste dans l'ordre du contingent. Tandis que le principe de causalité tel qu'Aristote le saisit, il le saisit dans l'ordre de la nécessité. Bon, ça c'est simplement pour, comme petit apéritif. Hein. Oui bien, j'espère que vous voyez bien pour éveiller votre intelligence. Alors maintenant nous allons regarder les cinq voies en les analysant. La première voie, celle que saint Thomas qualifie de plus manifeste. Celle qu'on a considérée comme la plus manifeste. C'est celle qui part du mouvement. De ce qui est mu, plus exactement.
pouvez pas nier qu'il existe des réalités qui sont nues.
À moins vraiment d'être un imbécile. Parce que vous-même, vous êtes une réalité qui est nue. Hein? Vous êtes bien obligé de constater qu'il existe des réalités qui sont nues. Je crois que ça ne pose pas de difficulté. Nous constatons dans notre univers des réalités qui sont nues. Une réalité de tous les jours. Or, voilà le principe, or, tout ce qui est mu par un autre. Tout ce qui est mu par un autre. C'est un petit principe qui, selon le père Gérard des Lauriers, n'a plus de valeur pour nous. Mais il faut le comprendre au niveau probablement de la philosophie de la nature, et non pas au niveau physique de la science moderne. Or, tout ce qui est mu, mu par un autre. Nous retrouvons ici le même point de départ et l'énonciation du même principe que dans le Contrat Gentilès, où la référence à Aristote était explicite, alors qu'ici, elle a disparu. C'est ça qui est très intéressant. Ici, la référence à Aristote disparaît. Saint Thomas ne donne plus de référence à Aristote. Alors que dans le Contrat Gentilès, Saint Thomas donne une référence à Aristote. Il faut être attentif à ça, parce que c'est délibérément, Saint Thomas ne dit pas que cet argument est un argument d'Aristote. Tous les commentateurs thomistes l'ont commenté en fonction d'Aristote. C'est là la petite différence. Saint Thomas manifeste l'évidence de ce principe en considérant ce qui est mu à la lumière même de la métaphysique de l'acte de la puissance. Ça, vous n'avez qu'à regarder le texte. Il faut le lire, hein, le texte. Hein, vous l'avez sous les yeux, donc vous n'avez qu'à le lire. Ce qui est mu est regardé à la lumière de la métaphysique de l'acte de la puissance. Nous verrons la métaphysique de l'acte de la puissance. Vous verrez bien que on ne peut rien comprendre aux voies de saint Thomas sans la métaphysique de l'acte de la puissance. C'est très très bien de commencer maintenant, comme ça, ça vous donnera un désir intense de comprendre la métaphysique de l'acte de la puissance. Ce qui est mu en tant que tel est en puissance, tandis que ce qui meut en tant que tel est en acte. Car mouvoir, c'est faire passer de la puissance à l'acte. Or, rien ne peut être amené de la puissance à l'acte si ce n'est par un être qui soit lui-même en acte. Donc, c'est très simple à comprendre. Tout ce qui est mu égale en puissance est nécessairement mu par un autre égale en acte. Or, rien ne peut être amené de la puissance à l'acte si ce n'est par un être qui soit lui-même en acte. D'autre part, il n'est pas possible que le même être soit à la fois et sous le même rapport en puissance et en acte. Il est donc impossible que le même être, sous le même rapport et de la même manière, soit à la fois moteur et mu, ou qu'il se meuve soi-même. Il faut donc que tout ce qui est mu soit mu par un autre. Ça, vous pouvez le comprendre. Si vous comprenez que tout ce qui est mu est nécessairement en puissance, et tout ce qui meut est nécessairement en acte, et qu'entre ce qui est en acte et en puissance, il n'y a pas de métaxu, il n'y a pas d'intermédiaire. L'être se divise en être en acte et être en puissance. Donc, dire que ce qui est mu par soi-même, c'est contradictoire. Puisque ce qui est mu, c'est ce qui est en puissance. Ce qui est en puissance ne peut pas se mouvoir. En tant qu'il est en puissance, il ne peut être mu que par l'acte. Vous voyez bien ça, hein? Si maintenant, cet autre qui meut est lui-même mu, il doit à son tour être mu par un autre. Et là, nous avons là la petite dégringolade, hein, imaginative du rêve, le rêve métaphysique. Hein. Vous savez, c'est ça le propre du rêve. On dégringole tout le temps. Et ça vous donne l'angoisse. Et il n'y a plus rien pour vous arrêter. Vous voyez, l'angoisse, c'est la suppression du non-réalisation à l'infini. C'est très, très curieux, ça. C'est ça, l'angoisse. Parce que quand vous dites, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes, ah, vous vous arrêtez. Il y a un terme. Il y a un roc. Il y a un roc qui vous arrête. Tandis qu'on ne peut pas dégringoler. Vous savez, quand on est en auto et qu'on dégringole, hein, le pas, la chose, on tourne indéfiniment. Quand ça va-t-il s'arrêter? Il suffit d'un arc pour arrêter. L'arc métaphysique qui arrête. Mais autrement, on tourne. Puis on voit que le précipice, il est très long. On voit un lac au bout. Et qu'est-ce que c'est va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Puis tout d'un coup, ça s'arrête. C'est pas trop comment. Mais dans un rêve, ça ne s'arrête jamais. Alors, si maintenant cet autre qui meut est lui-même mu, il doit à son tour être mu par un autre. Mais on ne cet autre qui meut est lui-même mu. Il doit à son tour être mu par un autre. Mais on ne peut pas remonter ainsi à l'infini, car s'il n'y avait pas de moteur premier, il n'y aurait aucun autre moteur. Ah, ça, c'est ça le coup de chien, là. Il faut bien saisir ça. Hein. C'est là où on dépasse le point de vue imaginaire. Hein. Parce qu'imaginativement, on pourrait très bien dire on peut remonter à l'infini. Et dans la science moderne, on peut remonter à l'infini. C'est ça la très grosse difficulté pour nous. On pourrait remonter indéfiniment, pourquoi pas? On peut remonter à l'infini. Donc, mais on ne peut pas remonter ainsi à l'infini, car s'il n'y avait pas de moteur premier, donc s'il n'y avait pas un premier, il n'y aurait aucun autre moteur, parce que les moteurs seconds ne meuvent que parce qu'ils sont mus par un moteur premier. Comme le bâton ne meut que parce qu'il est lui-même mu par la main. Alors si tout était bâton, il n'y aurait plus rien. S'il n'y avait pas de main, il n'y avait que des bâtons. Vous savez, c'est les ossements de Jérémie. Quand il n'y a que ça, hein, il n'y a que des ossements. Comment voulez-vous qu'il recommence à mouvoir? Il faut l'esprit qui fasse mouvoir les roues. S'il n'y a que des bâtons, ça ne se mouvera jamais. Il faut une main. Il faut donc sortir de la chaîne pour qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut donc nécessairement en arriver à un premier moteur qui ne soit mu par aucun autre. Et celui-là, tous le reconnaissent comme Dieu. Et celui-là, on aboutit à un premier moteur. Il est nécessaire qu'il existe un premier être moteur. Non mu. Un premier moteur non mu. Et c'est ce que tous disent Dieu. Vous voyez que saint Thomas ne conclut pas, il est nécessaire que Dieu existe. Ça, ce sont les apologètes. Et quel est le premier qui dira ça? C'est Descartes, le père de tous les apologètes. Tu vois? Descartes, c'est plus de la philosophie, c'est de l'apologétique. L'apologétique métaphysique, n'est-ce pas, qui se veut métaphysique. Mais au fond, c'est Descartes qui est le premier dira preuve de l'existence de Dieu. Saint Thomas ne dit jamais preuve de l'existence de Dieu. Saint Thomas dira démonstration d'un être premier, d'un absolu. Il existe un absolu. Celui qui n'est pas mu. Ce que tous disent Dieu. Alors, quand je passe à ce que tous disent Dieu, je fais appel aux traditions religieuses. Ça, c'est très important. Ce sont les traditions religieuses qui parlent de Dieu. C'est pas le philosophe. Le philosophe ne parle pas en premier lieu de Dieu. Il parle de l'être. Il parle de ce qui est mu. Il parle de l'absolu. Voilà ce que le philosophe veut dire. Mais Dieu, c'est un langage de tradition religieuse. Donc ce que tous disent Dieu, c'est le philosophe qui reconnaît que sa conclusion rejoint les traditions religieuses. Ça, c'est très très important de comprendre ça. Parce que si on avait bien compris ça, il n'y aurait pas eu d'athéisme. Ça, je crois. Je crois que c'est l'apologétique qui engendre les athéismes. Parce que là, vous voyez, on croit qu'on démonte l'existence de Dieu. Et qu'on la démontre modo géométrico, comme dit Descartes, hein, modo géométrico. Si vous pouvez démontrer l'existence de Dieu modo géométrico, celui que vous avez démontré ne peut pas être Dieu. Parce qu'il est relatif à vos principes. Ben, s'il est relatif à vos principes, il n'est pas Dieu. Parce que si Dieu existe, il est l'absolu. Il est absolu dans l'ordre de l'exister. Donc il faut pouvoir atteindre un absolu dans l'ordre de l'exister et non pas atteindre quelque chose qui est relatif à un principe. Alors vous voyez, c'est pas ça qui est très important. Là, il y a une purification de toute apologétique. Parce qu'on a toujours un petit fond apologétique. Vous savez, pas vous, pas ceux qui ont 18 ans maintenant, mais ceux qui en ont 40, oui. Vous voyez, alors il y a un petit fond apologétique. Tandis que, oui, parce que l'apologétique, ça vient sur les 40 ans. Pas à 18 ans. Pas à 19 ans, pas à 20 ans, mais après. Alors ceux qui sont entre les deux, vous voyez, ils louchent. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas l'apologétique. On aime la réalité. L'apologétique, c'est un remplaçant, vous voyez. C'est un remplaçant, l'apologétique. C'est pour pouvoir dormir le soir. Alors ça supprime les angoisses. L'apologétique, oui, oui, on peut démontrer ça un peu, oui, très très bien, ça va, ça va, ça va. Tandis que... Bon, alors vous voyez la première voie, hein, ce qui est mu, je constate, tout ce qui est mu, mu par un autre. Alors c'est là la très grosse difficulté. Tout ce qui est mu, mu par un autre. Aristote dit textuellement, tout ce qui est mu, mu par un autre, ça c'est le principe de causalité efficace. Saint Thomas ne met pas la référence à Aristote. Pourquoi ? Parce que pour Saint Thomas, ce n'est plus le principe de causalité efficiente. C'est moi qui vous le dis, ça. C'est plus le principe de causalité efficiente. Et je vais tout de suite vous le montrer. Tout de suite vous le montrer. Saint Thomas montre qu'on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Parce que si on remontait à l'infini dans l'ordre des causes, il n'y aurait plus un primum movans. Ça, il dit textuellement. Si je pouvais, je reviendrai dessus, hein. Il n'y aurait plus un primum movans. Or, le primum movans, pour saint Thomas, il meut par la causalité finale. Le primum movans, ce n'est pas une cause efficiente. C'est une cause finale. Donc, si ce n'est pas une cause efficiente, c'est une cause finale, on comprend bien, tout ce qui est mu par un autre, l'autre comme tel, c'est le primum movans. Or, le primum movans ne cause pas par la causalité efficiente, donc, le principe tout ce qui est mu par un autre n'est pas du tout l'autre cause efficiente. Ça peut être une cause finale. Donc, le principe tout ce qui est mu par un autre doit se comprendre du côté de la causalité finale. Si c'est du côté de la causalité finale, je comprends, il est nécessaire qu'il existe un être premier, moteur non mu, donc primum movans. Donc, ça va comprendre de mieux en mieux. Hein. Ce sont des approches successives pour faire tomber toutes les murailles apologétiques que vous avez dans votre esprit. Parce que l'apologétique, elle a exploité ce principe par la causalité efficiente. Pour ne pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Etc. Oui, il faut donc un premier moteur, il faut donc un coup de chicnote première qui est en dehors de l'univers et qui est Dieu. Vous voyez, le coup de chicnote, c'est évident, la causalité efficiente. Ce n'est pas la causalité finale, la causalité de chicnote. Hein. Quand vous n'êtes pas sage, coup de marteau. Alors ça, c'est la causalité efficiente. Hein. Tandis que, quand on est sage, un bonbon, causalité finale. voyez, c'est la différence entre le marteau et puis la sucette. Ça fait quelque chose de tout à fait différent. Alors, c'est la causalité, tout ce qui est mu par un autre. On va essayer de comprendre. Autrement dit, l'existence de ce qui est mu, si nous la saisissons à la lumière de ce qui est en tant qu'être. Donc l'existence de ce qui est mu, tout ce qui est mu. J'expérimente qu'il existe des réalités qui sont mues. Si nous la saisissons à la lumière de ce qui est en tant qu'être, exige de poser un premier être immobile au-delà de tout mouvement. La n'importe quelle réalité qui est mue exige de poser immédiatement un être premier immobile. L'existence d'une réalité mue postule par elle-même, en raison même qu'elle existe, l'existence d'un être premier. Ça, c'est formidable quand on a compris ça. C'est le fil à plomb, évidemment. C'est n'importe quelle réalité que vous mouvez. Du fait même que ce mouvement existe, cette réalité qui est mue existe, elle exige immédiatement de poser une première cause première, efficiente. Car, j'explique, car ce qui est mu, en tant qu'il existe, est en acte. C'est sûr. Parce qu'il existe, il est en acte. Mais en tant qu'il existe, en étant mu, il est en puissance. Donc il est à la fois acte et puissance, du fait même qu'il existe et qu'il est mu. Or, tout ce qui est en puissance dépend d'un autre qui est en acte. Ah, vous voyez ici le principe qui est émis d'une manière un peu différente. J'explicite le fond métaphysique. Or, tout ce qui est en puissance dépend d'un autre qui est en acte. Quand je dis tout ce qui est en puissance dépend d'un autre qui est en acte, je suis en présence du principe de finalité au niveau métaphysique. Tout ce qui est en puissance dépend d'un autre qui est en acte. Or, cet autre qui est en acte ne peut être qu'un moteur immobile. En effet, prétendre que cet autre est un moteur mu n'expliquerait rien, puisque étant lui-même en puissance, il dépendrait d'un autre en acte. Et si cet autre est encore mu, il faudrait alors remonter à l'infini. Et dans ce cas, il faudrait dire qu'il n'y a pas de premier moteur. Si je remonte à l'infini, il n'y a pas de premier moteur. Mais s'il n'y a plus de premier moteur, il ne peut plus y en avoir de second. Il n'y aurait donc plus de moteur. C'est par l'absurdité, hein, ça. Vous voyez bien, c'est pas un raisonnement positif, c'est un raisonnement par l'absurde. Et il faut affirmer le primat absolu de la puissance, et il faudrait affirmer le primat absolu de la puissance, le primat de la matière. Si je peux remonter à l'infini, dans l'ordre des causes, il n'y a plus de premier mouvance, puisque je peux remonter toujours. Donc il n'y a plus de premier mouvance. C'est bien évident. S'il n'y a plus de premier mouvance, et je demeure dans le domaine de ce qui est mu, dans ce qui est mu, la puissance est antérieure à l'acte. Donc, il faudrait affirmer le primat de la puissance et le primat de la matière. Mais alors, comment expliquer qu'il existe des réalités mues? Ce que nous constatons dans notre expérience quotidienne. Les réalités mues ne sont pas pure puissance. Elles sont en acte et en puissance. Le mouvement n'est-il donc pas là, n'est-il pas l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance? Donc le fait même qu'il existe une réalité qui est mue exige, si je veux l'expliquer, hein, si je veux l'expliquer métaphysiquement, exige de poser un moteur immobile. Vous arrivez à saisir ça? Oui, c'est le fil à plomb. Hein. Alors, nous avons cette maladie, hein, de vouloir toujours rester à l'horizontale. Ce qui est mu par un autre, mu par un autre, mu par un autre. Très très bien. Remonte à l'infini. Mais si on remonte à l'infini, il n'y a plus de premier. Parce que le moteur premier, le moteur immobile, est par définition celui qui n'est pas vu par un autre. Or, vous remontez à l'infini dans l'ordre, donc il n'y a plus de premier moteur. S'il n'y a plus de premier moteur, il n'y a plus de second. Non. Hein? Alors vous voyez, hein, c'est ça que je veux que vous compreniez. Vous voyez que cette première voie, elle est de l'ordre critique. Elle n'est pas du tout dans la métaphysique. Elle est d'ordre critique. Puisqu'on se sert du non-ré-résous à l'infini. Le non-ré-résous à l'infini n'est pas du tout métaphysique. Il est critique. Ça, c'est très intéressant, parce que si c'est critique, ah bon, très bien. Autrement dit, si je constate qu'il existe une réalité mue, et que je dis que toutes les réalités sont mues, eh bien, je suis devant un monde absurde, dont je n'explique pas l'actualité de son existence.